Chapitre 3. Buenos Aires est située par 34 degrés 35 minutes de latitude australe. Sa longitude de 65 degrés 5 minutes à l'ouest de Paris a été déterminée par les observations astronomiques du père Feuillet. Cette ville, régulièrement bâtie, est beaucoup plus grande qu'il semble qu'elle devrait l'être vu le nombre de ses habitants, qui ne passent pas 20 000, blancs, nègres et métis. La forme des maisons est ce qui donne tant d'étendue. Si l'on excepte les couvents, les édifices publics et 5 ou 6 maisons particulières, toutes les autres sont très basses et n'ont absolument que le rez-de-chaussée. Elles ont d'ailleurs de vastes cours et presque toutes des jardins. La citadelle, qui renferme le gouvernement, est située sur le bord de la rivière et forme un des côtés de la place principale. Celui qui lui est opposé est occupé par l'hôtel de ville. La cathédrale et l'évêché sont sur cette même place où se tient chaque jour le marché public. Il n'y a point de port à Buenos Aires, pas même un môle pour faciliter l'abordage des bateaux. Les vaisseaux ne peuvent s'approcher de la ville à plus de 3 lieues. Ils y déchargent leur cargaison dans des goélettes qui entrent dans une petite rivière nommée Riochuelo, d'où les marchandises sont portées en charroi dans la ville qui est à un quart de lieue. Les vaisseaux, qui doivent caréner ou prendre un chargement à Buenos Aires, se rendent à la Ensenada de Balagan, espèce de port situé à 9 ou 10 lieues dans l'est-sud-est de cette ville. Il y a, dans Buenos Aires, un grand nombre de communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe. L'année y est remplie de fêtes de saints qu'on célèbre par des processions et des feux d'artifice. Les cérémonies du culte tiennent lieu de spectacles. Les moines nomment les premières dames de la ville majordomes de leur fondateur et de la Vierge. Cette charge leur donne le droit et le soin de parer l'église, d'habiller la statue et de porter l'habit de l'ordre. C'est pour un étranger un spectacle assez singulier de voir dans les églises de Saint-François ou de Saint-Dominique des dames de tous âges assister aux offices avec l'habit de ces saints instituteurs. Les jésuites offraient à la piété des femmes un moyen de sanctification plus austère que les précédents. Ils avaient, attenant à leur couvent, une maison nommée la Casa de los Ejercicios de las Mujeres, c'est-à-dire la maison des exercices des femmes. Les femmes et les filles, sans le consentement des maris ni des parents, venaient s'y sanctifier par une retraite de 12 jours. Elles y étaient logées et nourries aux dépens de la compagnie. Nul homme ne pénétrait dans ce sanctuaire s'il n'était revêtu de l'habit de Saint Ignace. Les domestiques, même du sexe féminin, n'y pouvaient accompagner leur maîtresse. Les exercices pratiqués dans ce lieu saint étaient la méditation, la prière, les catéchismes, la confession et la flagellation. On nous a fait remarquer les murs de la chapelle encore teints du sang que faisaient, nous a-t-on dit, rejaillir les disciplines dont la pénitence armait les mains de ces madeleines. Au reste, la charité des moines ne fait point ici exception de personne. Il y a des cérémonies sacrées pour les esclaves et des dominicains ont établi une confrérie de nègres. Ils ont leur chapelle, leur messe, leur fête et un enterrement assez décent. Pour tout cela, il n'en coûte annuellement que 4 réaux par nègre agrégé. Les nègres reconnaissent pour patron Saint Benoît de Palpen et la Vierge, peut-être à cause de ces mots de l'Écriture, « Nigra sum sed formosa gilia Jérusalem ». Le jour de leur fête, ils élisent 2 rois, dont l'un représente le roi d'Espagne, l'autre celui de Portugal, et chaque roi se choisit une reine. 2 bandes, armées et bien vêtues, forment à la suite des rois une procession, laquelle marche avec croix, bannières et instruments. On chante, on danse, on figure des combats d'un parti à l'autre, et on récite des litanies. La fête dure depuis le matin jusqu'au soir, et le spectacle en est assez agréable. Les dehors de Buenos Aires sont bien cultivés. Les habitants de la ville y ont presque tous des maisons de campagne qu'ils nomment quintas, et leurs environs fournissent abondamment toutes les denrées nécessaires à la vie. J'en excepte le vin, qu'ils font venir d'Espagne ou qu'ils tirent de la Mendoza, vignoble situé à 200 lieues de Buenos Aires. Ces environs cultivés ne s'étendent pas fort loin. Si l'on s'éloigne seulement à 3 lieues de la ville, on ne trouve plus que des campagnes immenses, abandonnées à une multitude innombrable de chevaux et de bœufs qui en sont les seuls habitants. À peine, en parcourant cette vaste contrée, y rencontre-t-on quelques chaumières éparses, bâties moins pour rendre le pays habitable que pour constituer aux divers particuliers la propriété du terrain, ou plutôt celle des bestiaux qui le couvrent. Les voyageurs qui le traversent n'ont aucune retraite et sont obligés de coucher dans les mêmes charrettes qui les transportent et qui sont les seules voitures dont on se sert ici pour les longues routes. Ceux qui voyagent à cheval, ce qu'on appelle « aller à la légère », sont le plus souvent exposés à coucher au bivouac au milieu des champs. Tout le pays est uni, sans montagnes et sans autre bois que celui des arbres fruitiers. Situé sous le climat de la plus heureuse température, il serait un des plus abondants de l'univers en toutes sortes de productions s'il était cultivé. Le peu de froment et de maïs qu'on y sème y rapporte beaucoup plus que dans nos meilleures terres de France. Malgré ce cri de la nature, Presque tout est inculte, les environs des habitations comme les terres les plus éloignées, ou si le hasard fait rencontrer quelques cultivateurs, ce sont des nègres esclaves. Au reste, les chevaux et les bestiaux sont en si grande abondance dans ces campagnes que ceux qui piquent les bœufs en prennent ce qu'ils peuvent en manger et abandonnent le reste qui devient la proie des chiens sauvages et des tigres. Ce sont les seuls animaux dangereux de ce pays. Les chiens ont été apportés d'Europe. La facilité de se nourrir en pleine campagne leur a fait quitter les habitations, et ils se sont multipliés à l'infini. Ils se rassemblent souvent en troupes pour attaquer un taureau, même un homme à cheval, s'ils sont pressés par la faim. Les tigres ne sont pas en grande quantité, excepté dans les lieux boisés, et il n'y a que les bords des petites rivières qui le soient. On connaît l'adresse des habitants de ces contrées à se servir du lasso, et il est certain qu'il y a des Espagnols qui ne craignent pas d'enlacer des tigres. Il ne l'est pas moins que plusieurs finissent par être la proie de ces redoutables animaux. J'ai vu, à Montevideo, une espèce de chat-tigre, dont le poil assez long et gris-blanc. L'animal est très bas sur jambes et peut avoir 5 pieds de longueur. Il est dangereux, mais fort rare. Le bois est très cher à Buenos Aires et à Montevideo. On ne trouve dans les environs que quelques petits bois à peine propres à brûler. Tout ce qui est nécessaire pour la charpente des maisons, la construction et le radoub des embarcations qui naviguent dans la rivière vient du Paraguay en bateau. Les naturels, qui habitent cette partie de l'Amérique au nord et au sud de la rivière de la Plata, sont du nombre de ceux qui n'ont pu être encore subjugués par les Espagnols et qu'ils nomment Indios Bravos. Ils sont d'une taille médiocre, fort laids, et presque tous galeux. Leur couleur est très basanée, et la graisse dont ils se frottent continuellement les rend encore plus noirs. Ils n'ont d'autre vêtement qu'un grand manteau de peau de chevreuil, qui leur descend jusqu'aux talons et dans lequel ils s'enveloppent. Les peaux dont il est composé sont très bien passées. Ils mettent le poil en dedans, et le dehors est peint de diverses couleurs. La marque distinctive des caciques est un bandeau de cuir dont ils se saignent le front. Il est découpé en forme de couronne et orné de plaques de cuivre. Leurs armes sont l'arc et la flèche. Ils se servent aussi du lasso et de boules. Ces Indiens passent leur vie à cheval et n'ont pas de demeure fixe, du moins auprès des établissements espagnols. Ils y viennent quelquefois avec leurs femmes pour y acheter de l'eau-de-vie, et ils ne cessent d'en boire que quand l'ivresse les laisse absolument sans mouvement. Pour se procurer des liqueurs fortes, ils vendent armes, pelleteries, chevaux, et quand ils ont épuisé leurs moyens, ils s'emparent des premiers chevaux qu'ils trouvent auprès des habitations et s'éloignent. Quelquefois, ils se rassemblent en troupes de 200 ou 300 pour venir enlever les bestiaux sur les terres des Espagnols, ou pour attaquer les caravanes des voyageurs. Ils pillent, massacrent, et emmènent en esclavage. C'est un mal sans remède. Comment dompter une nation errante dans un pays immense et inculte, où il serait même difficile de la rencontrer? D'ailleurs, ces Indiens sont courageux, aguerris, et le temps n'est plus où un Espagnol faisait fuir 1000 Américains. Il s'est formé depuis quelques années dans le nord de la rivière une tribu de brigands qui pourra devenir plus dangereuse aux Espagnols s'ils ne prennent des mesures promptes pour la détruire. Quelques malfaiteurs échappés à la justice s'étaient retirés dans le nord des Maldonades. Des déserteurs se sont joints à eux. Insensiblement, le nombre s'est accru. Ils ont pris des femmes chez les Indiens et commencé une race qui ne vit que de pillage. Ils viennent enlever des bestiaux dans les possessions espagnoles pour les conduire sur les frontières du Brésil, où ils les échangent avec les paulistes contre des armes et des vêtements. Malheur aux voyageurs qui tombent entre leurs mains. On assure qu'ils sont aujourd'hui plus de 600. Ils ont abandonné leur première habitation et se sont retirés plus loin de beaucoup dans le nord-ouest. Le gouverneur général de la province de La Plata réside, comme nous l'avons dit, à Buenos Aires. Dans tout ce qui ne regarde pas la mer, il est censé dépendre du vice-roi du Pérou. Mais l'éloignement rend cette dépendance presque nulle, et elle n'existe réellement que pour l'argent qu'il est obligé de tirer des mines du Potosi, argent qui ne viendra plus en pièces connues depuis qu'on a établi cette année même dans le Potosi un hôtel des monnaies. Les gouvernements particuliers du Tucumán et du Paraguay dépendent, ainsi que les fameuses missions des jésuites, du gouverneur général de Buenos Aires. Cette vaste province comprend en un mot toutes les possessions espagnoles à l'est des Cordillères, depuis la rivière des Amazones jusqu'au détroit de Magellan. Le commerce même de Buenos Aires n'est pas aujourd'hui ce qu'il était il y a 10 ans. Il est considérablement déchu depuis que ce qu'on y appelle l'internation des marchandises n'est plus permise, c'est-à-dire depuis qu'il est défendu de faire passer les marchandises d'Europe par terre de Buenos Aires dans le Pérou et le Chili, de sorte que les seuls objets de son commerce avec ces deux provinces sont aujourd'hui le coton, les mules et le maté ou l'herbe du Paraguay. L'argent et le crédit des négociants de Lima ont fait rendre cette ordonnance contre laquelle réclament ceux de Buenos Aires. Le procès est pendant à Madrid, où je ne sais quand ni comment on le jugera. Cependant, Buenos Aires est riche. J'en ai vu sortir un vaisseau de registre avec 1 million de piastres, et si tous les habitants de ce pays avaient le débouché de leur cuir avec l'Europe, ce commerce seul suffirait pour les enrichir. Avant la dernière guerre, il se faisait ici une contrebande énorme avec la colonie du Saint-Sacrement, place que les Portugais possèdent sur la rive gauche du fleuve, presque en face de Buenos Aires. Mais cette place est aujourd'hui tellement resserrée par les nouveaux ouvrages dont les Espagnols l'ont enceinte que la contrebande avec elle est impossible s'il n'y a connivence. Les Portugais même qui l'habitent sont obligés de tirer par la mer leur subsistance du Brésil. Enfin, ce poste est ici à l'Espagne, à l'égard de Portugais, ce que lui est en Europe Gibraltar à l'égard des Anglais. La ville de Montevideo, établie depuis 40 ans, est située à la rive septentrionale du fleuve, 30 lieues au-dessus de son embouchure, et bâtie sur une presqu'île qui défend des vents d'est une baie d'environ 2 lignes de profondeur sur une de largeur à son entrée. À la pointe occidentale de cette baie est un mont isolé, assez élevé, lequel sert de reconnaissance et a donné le nom à la ville. Les autres terres qui l'environnent sont très basses. Le côté de la plaine est défendu par une citadelle. Plusieurs batteries protègent le côté de la mer et le mouillage. Il y en a même une au fond de la baie sur une île fort petite, appelée l'île aux Français. Le mouillage de Montevideo est sûr, quoiqu'on y essuie quelquefois des pamperos, qui sont des tourmentes de vent de sud-ouest accompagnées d'orages affreux. Montevideo a un gouverneur particulier, lequel est immédiatement sous les ordres du gouverneur général de la province. Les environs de cette ville sont presque incultes et ne fournissent ni froment ni maïs. Il faut faire venir de Buenos Aires la farine, le biscuit et les autres provisions nécessaires au vaisseau. Dans les jardins, soit de la ville, soit des maisons qui en sont voisines, on ne cultive presque aucun légume. On y trouve seulement des melons, des courges, des figues, des pêches, des pommes et des coings en grande quantité. Les bestiaux y sont dans la même abondance que dans le reste de ce pays, ce qui, joint à la salubrité de l'air, rend la relâche à Montevideo excellente pour les équipages. On doit seulement y prendre des mesures contre la désertion. Tout y invite le matelot. Dans un pays où la première réflexion qui le frappe, en mettant pied à terre, c'est que l'on y vit presque sans travail. En effet, comment résister à la comparaison de couler dans le sein de l'oisiveté des jours tranquilles sous un climat heureux ? Ou de languir affaissé sous le poids d'une vie constamment laborieuse et d'accélérer dans les travaux de la mer les douleurs d'une vieillesse indigente.